À quoi donc appartenir à l'Église nous engage-t-il ? Eh bien, ça dépend de ce que l'on entend par l'Église. Il y a en effet de nombreuses conceptions de ce qu'est l'Église. Si l'on entend par Église une institution définie par des règles, définie par des lois, définie par une doctrine, par une morale, par des ordonnances et par des observances, alors appartenir à l'Église, c'est s'engager à en respecter ce qu'elle dit. Alors appartenir à l'Église, c'est adhérer à ce qu'elle proclame, à ce qu'elle enseigne, adhérer à ses doctrines, obéir à ses exigences morales et bref, être en accord avec ce que l'Église proclame. Pour notre Église protestante unie, il n'y a pas de doctrine. Et je pense que c'est une bonne chose. L'Église protestante non plus, donc, ne donne pas de dogmes, ni de choses qu'il faut croire obligatoirement. Elle ne donne pas non plus de consignes morales, ni d'observance, chacun étant libre et responsable de sa foi et de ce qu'elle implique dans sa vie de tous les jours, dans le monde et pour ce qui est de sa pratique dans l'Église. Mais il est vrai que prétendre appartenir à l'Église protestante unie de France suppose que l'on en respecte les règles, qui sont volontairement minimalistes, mais moi-même, en tant que pasteur de l'Église protestante unie de France, je ne peux pas tout à fait faire n'importe quoi. Mais ce ne sont que des règles disciplinaires et en aucun cas donc doctrinales ou morales. Mais en fait, pour les protestants, c'est même pas tellement ça. Parce que l'Église en tant qu'institution, pour les protestants, est relativement peu de choses. Et il y a quelque chose d'absolument essentiel dans la pensée de la Réforme, depuis donc 500 ans, c'est la notion d'Église invisible. Et en effet, les protestants disent « l'Église du Christ, ça n'est pas une institution, ça n'est ni l'Église catholique romaine, ni l'Église protestante, ni l'ensemble des deux. L'Église du Christ, c'est tous ceux que Dieu connaît comme étant les siens. L'Église du Christ, c'est tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. » Qu'il soit inscrit ou non dans une église, qu'il soit protestant, catholique, maronite ou rien du tout. L'Église du Christ, elle est indécelable, indiscernable, et nul n'en connaît les contours, certainement pas nous, et nul n'a le droit même de prétendre en définir les contours. Il y a donc inscrit dans les églises chrétiennes certains qui, à mon avis, n'appartiennent pas à l'Église du Christ, parce que cette appartenance n'est qu'une appartenance formelle, et inversement, il y a évidemment des gens qui n'appartiennent à aucune église et qui, en fait, font partie de l'Église invisible du Christ. Alors donc, vous voyez, pour nous, la limite de l'Église n'est pas claire, n'est pas simple. Et être inscrit sur les listes électorales qui vous permettent de voter pour l'association cultuelle de l'Église de l'Étoile, ne veut même pas dire que vous êtes forcément paroissien de l'Étoile, et inversement, un bon nombre de paroissiens de l'Étoile qui se reconnaissent et se considèrent comme tels ne sont pas inscrits. Et inversement, il y a des gens inscrits sur les listes qui, à mon avis, n'y ont rien à faire, ou ne sont jamais là, ne se désintéressent totalement de l'Église de l'Étoile. Et donc, cette histoire d'inscription sur les listes électorales n'est qu'une formalité qui nous est imposée par la loi de 1905, mais en tout cas n'a rien à voir avec, je dirais, ni l'Église du Christ, ni même la réalité concrète de la paroisse de l'Étoile. Et donc, être paroissien de l'Étoile, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est compliqué. Et moi-même, je suis incapable de le dire. Vous savez même que pour être même membre officiellement de l'Église réformée de France, il n'y a même pas besoin d'être baptisé. Et donc on ne peut pas dire non plus que fait partie de l'Église ceux qui sont baptisés, parce que ce serait faux, puisqu'on peut être paroissien et même protestant sans être baptisé. Alors quel est le critère d'appartenance à l'Église ? Qui fait partie de l'Église et qui même fait partie de l'Église invisible de Jésus-Christ ? Dans le protestantisme, il y a deux principes. L'un qui sont dits en latin, comme toutes les choses importantes. L'un, c'est le sola gratia, et l'autre, le sola fide, c'est-à-dire la grâce seule, Et autre principe, nous dit-on, c'est la foi seule. J'aime ces deux principes parce qu'ils sont incompatibles. En effet, quand on vous dit que deux choses sont seules, ils ne peuvent pas être chacun seul. C'est, si c'est la grâce seule, il n'y a pas besoin de la foi. Et si c'est la foi seule, il n'y a pas besoin de la grâce. Bref, tout cela me semble un peu rapide. Mais effectivement, la structure de l'Église va dépendre de si l'on met en avant la grâce seule ou la foi seule. Ceux qui mettent en avant la foi seule vont dire « L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont la foi, l'ensemble de ceux qui professent leur foi, ceux qui ont foi en Jésus-Christ. » Ceux qui mettent en avant la notion de foi pour définir l'Église, ce sont ce qu'on appelle les églises confessantes. C'est en général la structure des églises de type évangélique. Une église confessante, elle est constituée de ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ, de ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, de ceux qui disent s'être convertis au Christ, et de ceux donc qui ont une foi vivante, active, efficace, réelle et visible, concrète. Autrement dit, pour ces églises dites confessantes, faire partie de l'Église, c'est s'engager à faire le cercle de ceux qui vivent cette foi. C'est de s'engager à avoir une foi concrète, visible et efficace dans le monde et au sein de l'Église. Et donc, les églises confessantes vont rassembler ceux qui ont la foi. Et ceux qui n'ont pas la foi ne font pas partie de l'Église. Ceux qui mettent en avant le principe de la grâce vont dire autrement. Ils vont dire « L'Église, ce ne sont pas simplement ceux qui ont la foi, mais l'Église, c'est ceux à qui la grâce est prêchée. » Ou ceux qui se mettent à l'écoute de la prédication de la grâce. Parce que Dieu ne nous sauve pas par notre foi, comme si notre foi était un mérite ou une œuvre, mais Dieu nous sauve parce qu'il nous donne sa grâce. Et l'Église, si elle est l'ensemble des sauvés, en quelque sorte, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont une foi extraordinaire, active et vivante, mais ceux qui sont à l'écoute de la grâce. Ces églises-là sont celles que l'on appelle les églises de multitude, les églises multitudinistes. Et nous sommes une église multitudiniste, et nous l'assumons joyeusement. Et c'est pourquoi l'église même de l'Étoile est une église dont nous ne pouvons même pas connaître les contours, parce que qui a la foi et qui ne l'a pas, je ne sais pas. Quel est le critère d'une foi suffisante pour appartenir à l'église de l'Étoile? Je n'en sais rien. Mais je dirais qu'a priori, l'église de l'Étoile, elle est constituée de tous ceux qui veulent bien, d'une certaine façon, se mettre à l'écoute de sa parole. Quelqu'un vient au culte, il se met à l'écoute de la prédication de la grâce que nous donnons dimanche après dimanche de cette chaire. Eh bien, en étant à l'écoute de la grâce, pour moi, il fait partie de l'église de l'Étoile. Sauf s'il ne le veut pas, bien sûr. De même, quiconque demande simplement à recevoir le bulletin, la lettre de l'Étoile, pour moi, fait partie de l'Église. Même s'il n'y met jamais les pieds, même s'il ne donne pas un centime à la quête, ni en chèque, ni en cotisation, ni en rien, quiconque se met à l'écoute de la grâce fait partie de l'Église. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que, dans le cas d'une Église de multitude, appartenir à l'Église ne demande aucun engagement. On peut appartenir à l'Église simplement parce qu'on se considère au bénéfice d'une parole qui est donnée. Et c'est tout. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Et finalement, donc, cela va dans le sens de ce que je pense un petit peu, c'est que, a priori, je n'aime pas l'idée d'engagement. La liberté du chrétien, c'est de faire en sorte que je puisse entrer et sortir librement de cette Église. L'Église n'est pas une secte. Quiconque veut en faire partie peut en faire partie. Et quiconque veut en sortir peut en sortir. Cela vous semble évident? Pourtant, ça ne l'est pas. Parce que j'ai même retrouvé dans le bureau des pasteurs à côté un certificat de confirmation d'il y a une cinquantaine d'années où le confirmant signait « Je promets de vivre et mourir dans la foi chrétienne ». Je promets de vivre et mourir dans la foi chrétienne. Je trouve ça effroyable. Je ne vois pas pourquoi l'Église mettrait une sorte de grillage, de filet, de boulet à ses paroissiens en leur disant « Vous êtes là, maintenant, vous ne pouvez plus sortir. » Et à ces jeunes de 15 ans, vous leur dites « Si vous confirmez là, vous êtes condamnés à vie, condamnés jusqu'à la mort à être chrétiens. » Je ne peux pas admettre une chose pareille. Et à tort ou à raison, je dis à mes catéchumènes « Vous confirmez aujourd'hui votre foi d'aujourd'hui. Si demain, vous voulez quitter l'Église, vous quittez l'Église. » Mais, comme le dit la belle liturgie du baptême que nous utilisons, à propos des enfants que nous accueillons dans l'Église sans qu'on dise pour autant qu'ils en fassent partie, ils en font partie qu'en tant qu'ils sont les enfants de parents qui en font partie, nous leur disons « Aucune contrainte ne l'y retiendra, mais s'il venait à s'en séparer, sa place y restera toujours marquée. » C'est une belle chose, justement, de dire « La personne a une totale liberté d'entrer ou de sortir de cette église, mais néanmoins, il y sera toujours le bienvenu. » Et le baptême lui-même n'est pas un engagement. Le baptême n'engage rien. Trop souvent, on entend au moment des confirmations dire que le jeune va confirmer les vœux de son baptême. Comment je ne comprends pas comment personne, pourtant tout le monde a assisté à des baptêmes, se rend bien compte que l'enfant ne fait aucun vœu. Je ne vois donc pas quel vœu le catéchumène de 15 ans pourrait confirmer. L'enfant ne fait aucun vœu, l'enfant ne s'engage à rien. Ou alors il faut triturer l'affaire et dire « c'est le vœu des parents ». En baptisant leur enfant, les parents disent « j'aimerais bien qu'il soit chrétien ». Et l'enfant dit « ben moi je veux bien aussi ». Donc il confirme le vœu de ses parents. C'est comme ça que je l'entends. Mais ça n'est pas ce que voulait dire la vieille liturgie. Et donc effectivement, il n'y a aucun vœu dans le baptême d'enfant. Le baptême d'enfant, c'est un signe de la grâce, une fois de plus. Et nous disons que l'enfant est sous la grâce de Dieu, comme tout être humain, et qu'il est bienvenu dans l'Église, qu'il y a sa place parce qu'il est d'une famille chrétienne, mais pas plus que cela. Parce qu'être chrétien, c'est le vouloir, et c'est un jour le prétendre soi-même. Et donc, voyez-vous, on ne demande aucun engagement à quiconque veut faire partie de l'Église. Et même à quiconque veut s'inscrire sur les listes électorales de l'Association cultuelle de l'Étoile, on ne lui demande aucun engagement, ni d'agir pour l'Église, ni de venir au culte tous les dimanches, ni de cotiser, ni de donner, quoi que ce soit. On ne lui demande ni même d'être baptisé, je vous l'ai dit, rien. On ne demande rien. Le minimum, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Il faut bien une base quand même. Jésus-Christ est le Seigneur. Ce que, là encore, on peut entendre d'une façon ou d'une autre. Et donc, effectivement, l'Église est fondée sur la grâce, elle est fondée sur la gratuité, et la gratuité, cela fait que les choses sont vraiment gratuites et que rien n'est exigé en échange. Donc, quiconque veut faire partie de l'Église, il y est par grâce, et sa présence est gratuite, et rien n'est demandé en échange. Il ne demandait aucun engagement, mais néanmoins, on peut s'engager. On peut désirer s'engager. Et c'est là, je crois, quelque chose d'important, c'est que, évidemment, l'Église ne demande aucun engagement, mais chacun peut décider, lui, de s'engager à faire ceci, à faire cela, à être actif dans l'Église ou à y contribuer. Chacun peut s'engager, et heureusement que certains membres de l'Église s'engagent. Sinon, l'Église n'existerait pas. Je vous rappelle que ces murs même ont été construits parce que certains protestants et parfois certains de vos ancêtres, il y a 150, 130 ans, se sont engagés en disant « Ben moi, je donne, je participe, je fais en sorte qu'il puisse y avoir une église dans ce quartier de Paris. » Il y a donc bien des gens qui se sont engagés. Cette église, elle n'a pas été offerte par l'État, ni même par l'histoire ou par les Templiers. C'est des protestants, des familles protestantes qui se sont engagées pour qu'elle existe. Et aujourd'hui, la subsistance même de cette paroisse de l'Étoile, elle est là parce que vous ou des membres de paroissiens de l'Étoile s'engagent pour qu'elle existe. L'Église, je suis toujours étonné de me rendre compte que certains pensent qu'elle bénéficie des subsides de l'État. Mais l'Église n'est pas un service comme la sécurité sociale. L'Église n'existe que parce que des personnes, des individus, des familles lui donnent les moyens d'exister. L'Église n'existe que parce qu'il y a des gens qui s'engagent pour qu'elle existe. Et ça, c'est une vérité. L'Église n'a aucune existence en dehors de ses membres. Et l'étoile, sans ceux de ses membres qui s'y engagent, n'existerait pas, ni financièrement, puisque tout l'argent que nous avons, quelqu'un l'a donné, le chauffage qui vous chauffe, c'est l'un de vous qui vous l'offre, l'électricité qui vous éclaire, c'est l'un de vous qui vous l'offre, et même la nourriture que je mange pour trouver l'énergie de vous prêcher, c'est vous ou vous ou vous qui l'offrez, ça ne tombe pas du ciel. Et donc tout cela, ça existe parce que certains d'entre vous veulent que ça existe. Et il est bon de se le rappeler. C'est vrai aussi pour toute activité. Les scouts n'existeraient pas s'il n'y avait pas des jeunes qui s'engagent. La vente n'existerait pas s'il n'y avait pas des jeunes qui s'engagent. Les catéchismes n'existeraient pas s'il n'y avait pas des adultes qui s'engageaient. Et la musique n'existerait pas s'il n'y avait pas des organistes qui s'engageaient à jouer bénévolement pour le culte du dimanche. Et donc oui, rien n'existerait dans cette Église s'il n'y avait pas des paroissiens qui s'engagent. Et ça, c'est important, je crois, de le savoir et de le rappeler. Alors il est vrai que l'Église peut être un lieu de consommation, pour certains, à certains moments. Et je ne veux pas culpabiliser ceux qui sont comme ça. Certains bénéficient de l'Église. Je viens au culte, je suis content, ça m'intéresse, et je confie mes enfants au catéchisme, c'est formidable, et pour le scoutisme, j'en suis heureux, j'assiste à des concerts, ou je ne sais pas. Certains sont dans l'Église comme des consommateurs. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que ça dépend aussi du moment de la vie. Il y a des moments où l'on consomme et des moments où l'on donne. Il y a un temps pour consommer, un temps pour donner, et quand on découvre la foi, certainement, on est plus au bénéfice des anciens. Et quand on est un ancien, on est plus à même de donner, peut-être, que de recevoir. Et il est vrai, d'ailleurs, que les plus engagés dans l'Église ne sont pas forcément ceux qui consomment le plus de services de l'Église, si je puis dire. Ce n'est pas un problème. Mais l'Église n'est pas qu'un lieu de consommation. L'Église, c'est aussi un lieu d'engagement. Et donc l'Église, c'est pas la lettre de l'étoile, c'est pas l'officiel des spectacles. Tiens, qui prêche dimanche? Ah, c'est Pernaud, oh, bon, j'irai dimanche prochain. L'Église, c'est pas comme ça. Et les jeunes, ah, c'est quoi le sujet du dîner de jeunes? Oh, ça m'intéresse pas beaucoup, j'ai une soirée, ça m'intéresse plus. L'Église n'est pas qu'un lieu de consommation, l'Église est un lieu d'engagement et d'action. Et donc l'Église, c'est le lieu où vous pouvez faire quelque chose pour le Christ, pour les autres, pour la société, pour d'autres chrétiens, pour l'Évangile. L'Église, c'est l'endroit où vous engagez. Et le culte, c'est le moment où on se rassemble pour se rappeler au nom de quoi nous nous engageons et pourquoi nous voulons agir. Mais l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin de 10h30 à 11h30. L'Église, c'est toute la semaine et toute l'année. Et donc certains sont plus dans le stade de la consommation, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que si on veut rester durablement dans l'Église, il n'y a qu'une solution, c'est de s'y engager. Parce que tant qu'on est dans la consommation, on finit par se lasser. Quand vous m'aurez entendu prêcher 20 fois ou 50 fois, vous en aurez assez, parce que moi je ne peux pas me renouveler tous les dimanches, et donc petit à petit vous direz bon c'est bon je connais, et je m'en vais. Et il y a comme ça des gens qui vont et qui repartent, c'est dommage. Le seul moyen de rester durablement dans l'Église, c'est de s'y engager. Et donc librement, je peux m'engager, parce que la liberté ce n'est pas de ne pas s'engager, mais la liberté c'est de s'engager là où on le décide soi-même. Librement, je peux m'engager à faire des choses, à être utile. Et l'engagement dans l'Église, cela veut dire faire plus que de rendre des services ponctuels. L'engagement, c'est de s'imposer à soi-même une contrainte, une régularité. Et ce n'est pas juste de dire « oui, moi je veux bien rendre service quand j'ai du temps, mais pas le reste ». Parce que je crois qu'on ne peut être vraiment efficace que si on s'engage. Et moi-même, en tant que pasteur, j'en rencontre beaucoup, des gens qui sont presque engagés, mais pas tout à fait, qui disent « Ah, monsieur le pasteur, je suis prêt à vous aider, mais vous comprenez, dimanche, j'ai autre chose à faire. » Très bien. Ou alors, tous ces jeunes retraités qui disent, qui pourtant pourraient être et sont une manne incroyable pour les églises, parce qu'à 60 ans, on est jeune, on a un pouvoir intellectuel et d'une efficacité redoutable. Mais tous ces retraités qui disent « Ah, moi, je suis à la retraite, je vous aiderai bien, mais je veux profiter de ma liberté. » pour me promener, aller en vacances, voir mes petits-enfants, tout ça. J'en sais rien, moi je ne juge pas de l'engagement de chacun, Et d'abord, l'Église n'est pas le seul lieu d'engagement. On peut avoir d'autres engagements, et pas forcément dans l'Église, donc j'ai aucun problème là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à s'engager. Ils prétendent vouloir rester libres, mais si on prétend rester toujours libre, finalement, on ne fait rien. Et heureusement qu'il y a des gens qui s'engagent et qui se donnent de vraies contraintes à eux-mêmes et qui sont ces gens qui s'engagent, justement ceux sur lesquels on peut compter et ceux qui finalement font marcher l'Église parce qu'on ne peut pas être une Église ne fonctionne pas de coups de battement d'ailes de papillon, autrement dit. Alors on s'engage, oui, mais on s'engage pourquoi ? Eh bien, on s'engage dans l'Église, mais on ne s'engage pas pour l'Église, parce que l'Église n'est pas une fin en soi. S'engager dans l'Église, c'est en fait s'engager pour le Christ. C'est vouloir que l'Église serve effectivement le Christ. Sinon, on tombe dans une organisation qui se justifie elle-même, et ce serait tout à fait regrettable. De même que donner à l'Église, ce n'est pas donner à l'Église, c'est une manière de donner au Christ, une manière de donner à Dieu. Et il faut donc faire la différence entre l'Église et le Christ, l'Église et Dieu. Il faut relativiser, je vous l'ai dit, il y a d'autres manières de s'engager, et donc on ne peut pas juger. Mais l'Église, c'est un lieu où l'on peut s'engager pour le Christ. L'Église, c'est un lieu privilégié où l'on peut s'engager à la suite du Christ, à agir dans le monde. Parce que d'abord, c'est un lieu privilégié pour agir au sein de l'Église, pour les autres frères et sœurs qui sont dans l'Église. Parce que l'Église, c'est aussi peut-être plus facile de témoigner dans l'Église qu'en dehors. Il est plus facile d'être le frère de ceux qui nous ressemblent un peu que le frère de n'importe qui et tout le monde. Mais l'Église est en soi-même un lieu d'action. Mais l'Église, c'est aussi le lieu privilégié de l'action collective dans le monde, d'agir à plusieurs, de se rassembler, de mutualiser ses forces pour avoir dans le monde une parole forte, une action forte. C'est ce que fait le service d'entraide, le diaconat, et c'est ce que nous voulons faire dans l'Église protestante unie, en disant, en se rassemblant, on est plus fort et plus visible. Et donner, s'engager, agir, servir, c'est la plus grande gloire de notre vie. C'est la plus grande chose que nous pouvons faire, et c'est aussi, je crois, la plus grande des satisfactions et la joie la plus extraordinaire que l'on puisse avoir dans sa vie, parce que c'est ce qui finalement donne un sens à sa vie. Et c'est comme pour les apôtres, et ainsi ce que Pierre dit à Jésus, et je conclurai là-dessus. Pierre dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci maison, frères, sœurs, mères, enfants et des terres, avec aussi des persécutions dans le siècle à venir, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. »